Bonjour, Arlette Farah sur les ondes de Radio Shalom. Alors aujourd'hui, pour nous parler de la pièce L'énigme Camus, une passion algérienne, j'ai avec moi Jean-Marie Papapietro. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Alors je suis allée voir la pièce hier
Oui.
et j'ai eu comme un choc. Elle m'a beaucoup touchée.
Oui.
Voilà. C'est assez spécial ce que je vais vous dire, mais vous parliez de Camus, vous parliez de son lien avec l'Algérie, de la façon dont il la comprenait, de la façon dont il la vivait.
Oui.
Et moi, je n'arrêtais pas d'avoir dans mon cerveau, ça faisait comme un puzzle et j'avais plein d'images de ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde.
Oui.
J'arrivais pas à me concentrer sur cette partie de l'histoire, je voyais tout autre chose à travers les mots qui étaient dits.
Ouais, comme en arrière-plan, quoi.
Oui, c'est ça.
On n'a pas nécessairement recherché cet effet, mais je pense que c'est l'actualité qui fait que ce débat que Camus entretient avec ce qu'il appelle les forces du siècle, hein,
Oui.
Il est permanent, il n'a pas cessé avec la fin de la guerre d'Algérie en 62. Il se poursuit et peut-être qu'il prend même plus d'ampleur encore aujourd'hui, à une échelle plus vaste. Donc c'est bien normal qu'on lise à travers ce spectacle aussi notre histoire actuelle, quoi.
Alors, Jean-Marie Papapietro, j'ai eu l'impression, d'ailleurs ça se passe bon à la salle Fred Barry, au théâtre Denise Pelletier, j'ai eu l'impression que vous vouliez nous faire passer un message. Je me trompe?
Un message, pas vraiment, je dirais, parce que ça serait prétentieux de ma part, mais il me semble quand même que la position de Camus par rapport à certains excès du nationalisme, notamment, il a toujours été très, très, comment, réservé par rapport au nationalisme,
Tout à
quel qu'il
fait.
soit. Et donc, effectivement, je crois que c'est peut-être le message le plus fort de Camus, et à travers le spectacle, ça apparaît assez nettement que le nationalisme est une notion qui risque parfois d'être explosive, quoi, de mener à des excès d'intolérance, de radicalisation, d'exclusion, tout à fait néfaste.
Alors c'est vous qui avez fait cette écriture, hein, ce
Oui.
texte.
Oui.
Comment vous le ressentez, Camus? C'est ça que je voudrais savoir.
Ben, je le ressens d'abord comme un proche, parce qu'on a partagé à une génération près, il aurait pu être mon père, on a partagé les mêmes émotions en Algérie. Lui, dans une Algérie plutôt pacifiée, il a vécu une enfance extrêmement heureuse et il en parle souvent, même si par ailleurs sa famille était extrêmement pauvre, hein.
Oui.
Pour Camus, la pauvreté n'exclut pas le bonheur. Et moi, dans des circonstances beaucoup plus dramatiques et tragiques, parce que en 54, j'étais adolescent et c'était déjà le début de cette guerre qui allait durer presque 8 ans et qui rendait la vie de plus en plus difficile en Algérie.
Mais il y a eu des choses atroces
Et
qui se sont
puis
passées.
son œuvre m'a beaucoup intéressé par la suite, quand j'ai découvert notamment L'homme révolté, et quand j'ai compris, mais beaucoup plus tard, tout ce qu'il avait pu vivre comme difficulté dans un Paris intellectuel qui lui était assez hostile, quoi.
C'est ça, justement, c'est la question que vous nous faites nous poser. Comment on pouvait avoir cette attitude-là au milieu de ce qui se passait à l'époque où le vent allait plutôt dans le sens de l'Algérie?
Oui, mais il n'était pas hostile, hein, Camus, il était hostile à la conception coloniale de l'Algérie française, c'est évident, il l'a dit et redit plus d'une fois, mais il n'était pas hostile à une forme d'émancipation de la colonie qui se serait transformée en une autonomie réelle par rapport à la France. Et puis, il pensait que ça pouvait évoluer vers une sorte de fédéralisme entre la France et l'Algérie pour éviter la brutalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la rupture totale et surtout l'exode massif de la population européenne. C'est là-dessus, effectivement, que Camus prend ses distances radicalement avec la plupart même de ses amis. Je pense à quelqu'un comme Jean Daniel, par exemple, le directeur du Nouvel Observateur, qui était un ami proche de Camus, mais ils sont restés pratiquement 2 ans, je crois, avant la mort de Camus, sans se rencontrer, parce que Jean Daniel était partisan de l'indépendance et de la venue au pouvoir du FLN, alors que Camus, pour lui, c'était la solution la pire, quoi.
Alors, à travers vos personnages sur la scène, chacun donne une opinion, une idée, ou en tout cas explique sa manière de voir.
Oui, un peu, oui.
Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, en regardant la pièce. La vôtre personnelle, quand vous avez écrit ça, parce que vous nous parliez des liens du fait que, Camus, bah, vous avez vécu aussi votre enfance en Algérie, comment... Est-ce que vous, aujourd'hui, à l'époque actuelle, vous êtes en accord avec ce qu'il disait à ce moment-là?
Moi, j'ai essayé de faire un spectacle sur Camus. Donc, effectivement, il meurt en 60. La fin de la guerre, c'est 62. Il a pas connu tout le drame de l'exode des pieds noirs. Il le redoutait, il le pressentait, mais je pense qu'il n'imaginait pas que ça prendrait cette ampleur. Et donc, rétrospectivement, on ne peut pas imaginer quelle aurait été l'attitude de Camus, effectivement, devant ces événements dramatiques. Mais je pense qu'il aurait élevé la voix pour se faire entendre et pour peut-être faire en sorte que les choses se passent de manière moins violente, quoi.
Est-ce qu'il est représentatif pour vous d'un homme de paix?
Ah oui, absolument. D'ailleurs, sa dernière intervention publique, ça se passe en 56, donc vraiment en pleine guerre.
Oui.
Il décide de se rendre à Alger, de prononcer une conférence pour appeler à ce qu'il appelle une trêve civile destinée à épargner les femmes, les enfants, au moment où se déchaîne une vague de terrorisme aveugle. Et à partir de là, il a compris que son message n'était pas entendu et il a préféré se taire tout en manifestant, bien sûr, auprès de ses proches, de ses amis, et en intervenant plus d'une fois d'ailleurs pour essayer de sauver des membres du FLN qui étaient condamnés à mort. Plusieurs fois, il n'hésite pas à écrire au président de la République, à De Gaulle, pour lui demander de la grâce de gens dont il condamnait par ailleurs l'action.
Oui, c'est
on a une image vraiment de la complexité de sa position, mais sur laquelle il n'a jamais voulu renoncer, quoi. C'est-à-dire qu'il est contre la peine de mort, et même si un de ses adversaires, d'ailleurs, à la fin de la guerre, il a été de la guerre 45, hein, 39-45, il a signé une demande en grâce de Robert Brasillach.
Oui, c'est vrai.
Qu'il combattait résolument en tant que journaliste engagé dans la résistance, vous comprenez?
Oui.
Ça, c'est Camus.
C'est comme surprenant à comprendre. C'est je suis contre quelque chose et en même temps, je sauve la personne contre laquelle je suis. C'est une dualité.
Parce qu'il est Camus, c'est un homme de principe. Et pour lui, il faut la peine de mort, c'est quelque chose qu'il a toujours combattu. Il a même écrit un livre là-dessus. Aucune raison ne doit l'empêcher de demander la grâce d'un condamné, dans la mesure où il peut intervenir, naturellement.
Bien sûr, je comprends bien, avec sa notoriété.
Dans la mesure où on lui en fait la demande. Donc il a toujours accédé à ses demandes, même venant d'un parti que par ailleurs il considérait comme néfaste.
Et dangereux, c'est vrai.
Oui.
Alors, Jean-Marie Papapietro, on va s'arrêter une petite minute pour faire une pause publicitaire et puis on revient tout de suite après.
D'accord, merci. D'accord.
Alors, nous voici en deuxième partie, toujours avec Jean-Marie Papapietro. Alors, Jean-Marie, parlez-moi un peu théâtre. Parlez-moi de la création du Théâtre de la Fortune.
Ah ben, c'est une compagnie qui existe maintenant à Montréal depuis presque 15 ans. Disons qu'on travaille surtout sur des textes contemporains, souvent qui ne sont pas écrits pour le théâtre, donc des adaptations. Par exemple, on a fait une adaptation du Château de Kafka, qui est en fait un roman, et puis aussi d'autres textes de Robert Walser, Lydie Salver, qui vient d'obtenir le prix Goncourt. Donc, un théâtre basé surtout sur la parole vivante qu'on essaye de restituer dans une dimension théâtrale.
Alors, tout se fait au théâtre parce que lorsque j'ai vu la pièce que vous avez écrite et montée sur Camus, j'avais l'impression, assise sur mon fauteuil, d'avoir presque trop d'informations et pas assez de tiroirs dans mon cerveau pour tout emmagasiner.
Ah oui.
Et puis en fait, le lendemain, il y a plein de choses qui me sont revenues. Donc je me rends compte qu'on enregistre presque malgré nous.
Et ben, c'est ça, comme une plaque photographique qui s'imprègne peu à peu. Oui.
Vous savez, quand vous faites une première scène dont on peut quand même parler, parce que c'est le tout début, donc toutes les notes qui arrivent, j'avais l'impression qu'elles arrivaient comme ça tout à la fois dans ma tête aussi.
Ah oui, oui. Bah, toute la première partie du spectacle est assez impressionniste. C'est-à-dire qu'on essaye d'évoquer un peu l'Algérie, les coutumes. Il y a tout un monologue en patouette qui est assez amusant en principe.
Oui.
Donc on est dans un flou qui est un peu recherché pour essayer ensuite de glisser peu à peu. Ça se fait dans la première demi-heure, disons, jusqu'au moment où les choses se nouent vraiment, surtout dans une scène qui oppose Camus à un écrivain algérien, un de ses amis d'ailleurs,
qui s'appelle
Mouloud Feraoun. Et là, on sent qu'on entre vraiment dans l'intimité du drame de Camus. Un drame très douloureux qui fait qu'on est presque au cœur d'une tragédie, il le dit lui-même. Si les choses continuent à se durcir autant de chaque côté, on va vers une issue complètement tragique. Donc effectivement, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, il me semble que les choses se placent peu à peu, et à chaque spectateur de retenir à ce moment-là ce qui l'a peut-être le plus frappé dans l'ensemble du spectacle. Chose aussi qui est peut-être qu'on a essayé de faire sentir, mais complètement en arrière-plan, c'est la présence de cette mère. Dès le début du spectacle, on évoque sa mère, cette mère analphabète à laquelle il est très attaché, parce qu'il s'en est détaché pour devenir ce qu'il appelle un véritable monstre de culture, de mondanité, etc. Alors qu'elle est restée toujours toute sa vie la femme humble, soumise, la servante, qui gagnait sa vie en faisant des ménages ici et là. Et on a voulu, dans le spectacle, quand même maintenir cette présence. Est-ce qu'on y a réussi ?
Ah oui, elle est très présente.
Oui.
Et très présent, le lien très très fort qui existe avec sa mère. On le sent, ce lien très fort.
Qui est lié vraiment à la nature, quoi. Alors que lui, c'est l'incarnation de la culture.
En même temps, sur cette scène, on comprend des choses, on s'en rappelle ou on en apprend. La pièce m'a beaucoup touchée et je conseille vivement d'aller la voir. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à la fin, je suis sortie en ayant l'impression que l'énigme Camus, bien, était toujours une énigme pour moi, même si j'en avais appris un petit peu plus.
Vous voyez, mais je pense qu'on en est à peu près tout cela. Hein. Pour moi, si vous voulez, je pense que ce qui fait en sorte que Camus reste lui-même avec ses ombres et sa lumière, c'est sa lucidité. C'est quand même quelqu'un qui est rationnel, qui ne se laisse pas trop dominer par l'émotion et qui recherche toujours une vérité, quoi. Il est obsédé par ce désir de vérité, de justesse et aussi de justice.
Oui.
Mais effectivement, ça serait ça au cœur de ses contradictions, de sa complexité, ce désir d'aller vers la clarté, quoi. Et il y parvient peut-être difficilement, mais toujours en associant et jamais en dissociant. C'est-à-dire, son premier livre s'appelle « L'envers et l'endroit ». Et il faut maintenir toujours l'envers et l'endroit. Donc,
c'est pas le plus facile.
C'est pas facile, effectivement, parce qu'en général, les gens préfèrent dire que c'est blanc et c'est noir. Pour lui, il faut associer le blanc et le noir. Il faut pas chercher à opposer, mais il faut tout faire pour essayer de réunir. Et c'est pas facile.
Eh bien, la preuve que non, puisque des années après, on est toujours dans des situations dans le monde.
D'ailleurs, dans le spectacle, on fait allusion à une nouvelle qu'il a écrite qui s'appelle « L'hôte dans l'exil et le royaume ».
Oui.
C'est le personnage de ce maître d'école à qui on confie un prisonnier parce que les circonstances font, dans cette Algérie de l'époque, un gendarme peut confier un prisonnier en demandant au maître d'école de conduire le prisonnier
à la prison
qui se trouve à une vingtaine de kilomètres. Et naturellement, le maître d'école s'y refuse. Mais il accepte quand même d'héberger ce prisonnier, qui n'est d'ailleurs pas un prisonnier politique. C'est un homme qui a tué son cousin. Bon. Et donc, il l'héberge. Et le lendemain, au lieu de le mener sur le chemin de la prison, il lui laisse la liberté de choisir de s'échapper. Il lui laisse cette liberté. Mais quand il revient dans sa classe d'école, au tableau noir, il y a une inscription qui dit « Tu as livré un de nos frères, tu paieras ». Autrement dit, le geste même est compromis. Et à ce moment-là, on sent effectivement toute la solitude que pouvait éprouver Camus, c'est-à-dire l'impossibilité pour lui d'avoir une action cohérente, quoi.
Mais c'est la façon dont on le voit, c'est le filtre de nos... On ne voit qu'une partie de la chose et on a une réaction immédiate, charnelle, primaire.
Ouais.
Et on ne cherche pas toujours à comprendre ce qu'il y a derrière geste, un mot, une attitude.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, toute action dans la vie comporte un risque. C'est le risque d'être mal compris, d'être... Et je crois qu'en cela, Camus est quand même très proche de nous. Parce que même dans notre vie personnelle,
bien sûr,
on est capable d'éprouver souvent ce genre de malentendu, quoi. Le malentendu, c'est aussi le titre d'une de ces pièces.
C'est vraiment ça, c'est le malentendu. Mal entendu. On peut le séparer en deux mots. On a mal entendu.
Voilà.
C'est exactement cette façon-là.
C'est la raison pour laquelle il a tellement souffert d'être mal compris, surtout dans le milieu parisien, quoi. Dans le milieu parisien.
De l'époque.
De l'époque, où on l'a souvent traité de tous les noms, quoi. Et même parfois infamant, comme fasciste, réactionnaire, alors qu'il était profondément de gauche, quoi. Sa sensibilité était de ce côté-là, ça fait aucun doute. Seulement, il disait, je suis de gauche, malgré elle et malgré moi.
Encore une belle phrase de dite.
Vous comprenez?
Je comprends. Alors, Jean-Marie
Et
Papapietro, nous arrivons à la fin de cette
oui.
entrevue. Je voulais juste souligner, je vais vous laisser le mot de la fin, mais je voulais juste souligner que cette pièce se passe à la salle Fred Barry encore jusqu'au 29 novembre. Donc, n'hésitez pas, allez le voir, l'énigme Camus, avec 4 à 5 personnages sur scène, et vous avez une belle mise en scène.
Je vous remercie.
Et puis, je vous laisse le mot de la fin, si vous aviez quelque chose
Bah,
d'autre à dire.
le mot de la fin, ça serait de dire quand même que Camus a écrit son dernier livre qui n'a jamais été publié d'ailleurs de son vivant, puisque c'était un brouillon inachevé, qui s'appelle Le Premier Homme. Et ce livre, il l'écrit vraiment dans la joie pour, dans une certaine mesure, défendre quand même la mémoire de ses pieds noirs, qui constituaient sa famille, disons, sa communauté. Et tout ce que je voudrais à la fin, c'est quand même vous lire une citation d'un écrivain algérien que j'aime beaucoup,
Oui.
un des plus grands aujourd'hui, qui s'appelle Boualem Sansal, et qui écrit à propos de cette communauté pieds noirs. Il écrit ça, trahi et abandonné. Les pieds noirs l'ont été abondamment, et aujourd'hui encore, on marche sur leur mémoire, on crache sur leur histoire, on efface leur tombe. C'est aussi un cas de génocide, si on y regarde. On pourrait demander, que sont-ils devenus ces gens? Et les harkis aussi. Ils étaient nos voisins, nos collègues, nos amis. Nous avons le droit de savoir. Et je trouve ce témoignage extrêmement touchant, venant d'un Algérien musulman, qui prend quand même à cœur de dire quelque chose de très senti, de profondément senti, sur une communauté qui a été quand même assez méprisée par l'histoire. Voilà.
En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, Jean-Marie Papapietro,
Ben, je
et
vous en
puis
prie, avec plaisir, au revoir.
je vous souhaite le meilleur.
Merci.